et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est Marie de Sois Sage et Parle Fort. Je vous reçois aujourd'hui pour un nouvel épisode avec une personne qui est chère à mon cœur. Ça fait très longtemps que je voulais faire un épisode avec elle. Et c'était peut-être pas encore le moment. C'était pas l'heure. Ça pouvait pas se faire. Et là, je sens que c'était l'heure. Donc, je reçois aujourd'hui Corinne. Corinne, que je connais depuis mes 11 ans, 12 ans peut-être. Qui m'a vu grandir. Qui m'a accompagnée pendant longtemps et qui m'accompagne encore aujourd'hui. À distance. Comme d'habitude, souvent, je choisis une citation pour démarrer les épisodes. Et aujourd'hui, c'est Corinne qui l'a choisie. C'est une citation de Raina Maria Rilke. « Je vis ma vie en cercle croissant, qui se meuve au-dessus des choses. Je n'accomplirai peut-être pas le dernier, mais je veux l'essayer. Et je tourne depuis des siècles. Et je ne le sais toujours pas. Suis-je un faucon, une tempête, ou bien un immense champ ?» Alors, je ne sais pas pourquoi Corinne l'a choisie. Elle vient juste de m'en parler. Donc, bah déjà, bienvenue Corinne.
Merci. Merci Marie de m'avoir invitée à ce moment magique pour moi.
Bon, en vrai, je suis chez toi.
Oui, mais le moment, c'est le nôtre.
Le moment, c'est le nôtre. Bah, pour commencer, qui es-tu? D'où tu viens? Où est-ce que tu es née? Quel âge tu as? Si c'est pas indiscret, mais je pense pas.
Mais voilà, j'ai 58 ans. Je viens de Berne, c'est en Suisse. J'ai grandi... aussi à Berne.
Dans les grandes
villes. J'ai deux frères.
T'as deux frères, ok.
Si c'est important. Ou pas. C'est toujours la grande question. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment important? C'est pour ça aussi cette citation qui m'accompagne depuis presque 40 ans, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée quand je l'ai lue, quand je l'ai entendue et relue et relue la première fois. Et cet effet qu'elle m'a touchée profondément dans mon âme et que finalement cette citation m'accompagnait depuis toutes ces années. Probablement, ça veut dire être quelque chose vraiment sur moi, sur mon âme. Et c'est toujours cette question, qu'est-ce qui est important? Est-ce que vraiment, un jour, je pourrais savoir qui je suis? Parce que finalement, c'est comme quand tu lances un petit caillou dans l'eau, et c'est les...
Comment ça s'appelle? Les gouttes? Les éclaboussures? Les cercles autour?
Les cercles autour que ça donne, ça non. Alors, les ricochets, tu
oui,
vois.
Oui, les ondes.
Les ondes, cercles, ouais. qui grandissent à travers. Finalement, il y a tellement de choses qui te semblent au premier coup hasard ou pas avoir choisi, qu'un peu plus tard sur ton chemin, tu réalises, ah waouh, c'était dans la logique important dans le grand plan.
Oui.
Et d'autres choses que peut-être toi, tu ressentais important, qui s'en vont, pareil, comme ces cercles, tu vois, dans l'eau, et qui étaient importants peut-être juste pour une respiration, mais pas plus.
Mm.
À travers de ça, d'être né, avoir grandi dans une famille, la façon comme tu grandis, ce sont tous de ces cercles mettent des choses dans ton sac à dos que tu portes, hein, mais que finalement, ils font aussi partie, pour moi, du grand plan, j'appelle ça le grand plan, qu'on s'est choisi nous-mêmes. On se choisit les choses, dans le jardin des anges, avant que tu naisses ou avant que tu renais. Même ça, j'ai aucune idée. Je ne sais pas, est-ce qu'on n'a qu'une vie ou est-ce qu'on a plusieurs, comme les bouddhistes, tu vois. À travers de ça, je suis ouvert, mais à travers ma vie, tu vois, il y a eu des choses qui sont restées, et comme cette idée, elle me restait aussi, que avant que tu naisses, tu es dans le jardin des âmes, et chaque âme a aussi un guide âme,
okay,
et qui vient te voir avant que tu naies pour la première fois, ou pour la deuxième, troisième, cinquante, quoi que ce soit. Et on discute, alors ton guide, c'est quelqu'un de sacré, te pose des questions pour que tu réalises, est-ce que dans la dernière vie, est-ce que j'ai accompli mes choses que je voulais apprendre? Et on discute, par exemple, de la dernière vie, est-ce que tu as appris ça et ça, et là, sur ce plan-là, comment tu as trouvé, nanana. Et puis après, à un moment, il dit, bon, maintenant, on se prépare pour la prochaine étape, pour la nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux apprendre? Et on met à travers un plan, comme une fleuve, les choses, les situations, les gens
qui vont te permettre peut-être de régler ces trucs-là.
Apprendre. En fait, c'est pas régler, c'est apprendre. C'est différemment. Mmh. C'est par choix. Tu veux apprendre quelque chose et dans la facilité, tu ne l'apprends pas. Alors, on choisit ensemble une situation qui est, premier vue, peut-être difficile ou douloureuse. Mais c'est là que tu puisses apprendre quelque chose de très important. Être en amour avec toi-même, par exemple, ou de pardonner, ou quoi que ce soit le sujet.
Mm.
Et cette idée m'a amené toujours la paix, parce qu'au bout d'un moment, je me suis toujours dit, ah ok, merci beaucoup. Alors, si c'est vraiment comme ça, pourquoi je me suis choisi cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et j'ai toujours trouvé des réponses pour ça. Et à travers de ça, je chemine mon chemin, qui peut être très difficile et facile, comme douloureux ou
joyeux,
avec du chagrin ou compliqué ou quoi que ce soit, mais c'est dans cette couleur de paix et responsabilité vers moi-même, dans l'idée, je me suis choisi ça pour apprendre, pour grandir. Et ça fait le lien de nouveau pour ce poème de Rilke, que je me suis toujours dit, qui je suis? Est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Non. Mmh. C'est juste les valeurs que je porte en moi, de les mettre en vie et de leur donner de la couleur. Et même les mots sont échangeables.
Mmh.
Et sur ça, voilà. Je suis née, ça c'est important, et je suis heureuse d'être née. Et le reste, il n'y en a pas de plus important que d'autres. Tout est pareil.
Tout est important, oui.
Voilà. Et quand tu regardes ma vie...
T'as une vie quand même impressionnante.
En fait, ça c'est rigolo parce que les gens, des fois, ils me disent « Waouh, mais comment tu as fait ? J'aurais jamais survécu tout ce que tu as vu. » Ça fait pas très longtemps, c'était une fille, elle a eu une jeune dame, pardon, elle a eu 24 ans. Et c'était une discussion entre femmes. Il y a deux dames, il y a une qui a eu 60 ans, l'autre 65, moi, et cette jeune fille qui était la fille d'une de ces dames. Et elle était... Et en fait, je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. On a discuté un peu chacun de notre vie. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'ai la vie la plus belle. Je suis heureuse de tout ce que j'ai vécu. Je suis la plus gâtée au monde. Je me sens tellement vivant et chanceux et tout ça. Et à travers de ce discours que j'ai fait, cette jeune fille de 25 ans, qui me connaît depuis sa naissance, elle m'a regardée avec des grands yeux. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes là ? Jamais j'aurais décrit ta vie comme ça. Pour moi, tu es une guerrière qui surmonte tous les obstacles, toutes les difficultés, toutes les guerres que tu peux t'imaginer. Mais jamais dans ma vie, j'aurais pensé que tu dis toi-même, j'ai que le bonheur, je suis heureuse, oui. Je suis gâtée, alors... tout ça. Et c'était intéressant, tu vois. Et ça montre aussi... que probablement vraiment, j'ai vraiment, comment dire, j'ai vraiment cette vision dans mes cellules, tu vois. Jamais j'aurais mis des mots comme guerrière, comme
négatif,
difficile, ou quoi que ce soit sur ma vie, tu vois. Et c'était hyper intéressant, tu vois.
Mais tu les as quand même vécues comme difficiles, parce que pour donner du contexte, tu vis aujourd'hui en France depuis 20 ans. Mm-hmm. T'as grandi à Berne, tu as fait des études pour devenir infirmière, tu as œuvré en Suisse et tu as fini en France parce que ton mari a décidé de... Et toi, sûrement, je connais pas les détails, vous avez décidé de vous installer en France pour élever des agneaux. Alors, j'ai schématisé parce que c'est ce que je connais.
Oui.
Tu m'arrêtes si je me trompe. Dans le contexte de tout ça, vous avez eu trois merveilleux enfants qui vont très bien a priori. Mais quand on dit difficile, c'est dans le sens où déjà tu changes de pays, peut-être une situation pas forcément entre guillemets évidente pour le commun des mortels, parce que élever des agneaux en France, être agriculteur ou de manière générale, c'est pas facile. Être infirmière anesthésiste en France quand on vient de l'étranger, c'est pas facile parce qu'on a un système de santé en France particulier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, moi je t'ai connue aussi parce que tu donnais des cours de pilates chez toi, dans ta ferme, avec des bouddhas, des décorations, avec des anges, avec des bougies, de l'encens. Tu fais aussi de l'hypnose, tu fais beaucoup de choses. Et je connais pas finalement le détail, tu vois. Mais comme tu dis, est-ce que c'est vraiment important ? Je sais pas.
En fait, peut-être... je pense finalement... bien sûr, chaque détail est important. Parce que aussi la vie comme un grand mosaïque, tu sais, qu'on pose des pierres. Et chaque moment, chaque événement est une pierre comme ça. Et à la fin de ta vie, tu verras ton art que tu as fait avec toutes ces pierres. Puis à la fin de ta vie, tu peux reconnaître après ce cadre, cette image, cet art. Tu vois.
Mais pour en arriver à ça, t'es pas née avec cette idée-là, si ? Il y a forcément eu un passage, il y a peut-être eu un déclencheur, un truc où... Moi, je sais que dans mon souvenir, moi j'ai souffert d'anorexie pendant des années. Et tu m'as aidée à un moment donné, quand j'avais 17 ans, où je venais te voir une fois par semaine et on faisait à chaque fois quelque chose de différent. On faisait aussi du pilates, on faisait de l'auto-hypnose, on faisait dans un hamac. J'ai des souvenirs flous parce que mon cerveau, il a beaucoup oublié cette période-là. Mais je sais que tu m'as dit que tu avais connu ça. Est-ce que ça, cette anorexie ou ce problème-là, a été peut-être un déclencheur de switch, de ok, vers où je vais ou c'est...
Alors, il y a deux choses. Alors, pour ta question, est-ce que tu es née avec ça? Peut-être là, c'est la réponse oui. Parce que je pense que je suis née avec quelque chose que chaque être humain porte en soi. Mm-hmm. Et ça, c'est ce devoir, cet appel, c'est une demande de l'univers, de Dieu, tu peux l'appeler comme tu veux, que tu as accompli à côté de toutes tes tâches de la vie ordinaire, style la profession, être sœur ou frère ou maman ou papa, quoi que ce soit. C'est au-dessus de là, à chaque moment, tu as cette possibilité de redonner le merci à l'univers, je parle maintenant de l'univers, pour que tu aies la chance d'être ici, dans ta vie. Et ça, c'était quelque chose que je me souviens qu'on m'a déjà dit quand j'étais petit, quand j'étais à l'école. Et c'était, on m'a toujours dit, mais toi, tu es comme un soleil. Quand tu es là, tout est soleil. Après, quand j'étais à l'école et tout ça, je prenais ça à côté de oui, oui. En fait, ça ne m'a pas beaucoup touchée, tu vois. Mais au fur et à mesure, ça c'était toujours un sujet qu'on m'a redonné, tu vois. Souvent quand tu pars, quand tu changes la profession ou quoi que ce soit, tu vois, et les gens, ils viennent te remercier. Et toujours, c'était ça un sujet. Tu vas nous manquer parce que tu étais la lumière de notre bloc opératoire, par exemple. Mm. Et il y a eu un moment clé que j'ai réalisé ça. Ça, c'était dans ma formation de l'hypnothérapie à direction Milton Erickson. Et on a fait une auto-hypnose et c'était vraiment plongé dans la dimension de réaliser qui je suis. Oh. Qui je suis vraiment. Et pourquoi je suis ici ? Grand sujet.
Mais par rapport à soi-même, par rapport aux autres,
c'était très grand. Et du coup, on a fait, cet exercice, si tu veux. Et après, cette auto-hypnose, tout le monde est revenu un peu en groupe. Et après, il fallait qu'on échange, qu'on discute de ce qu'on a aperçu dans cette phase de transe de nous. Alors, en fait, les réponses, alors, qui je suis, pourquoi je suis ici. Et du coup, moi, j'étais très gênée parce que les autres, ils ont commencé à raconter, à s'échanger. C'était tous des histoires magnifique, tu vois, des choses incroyables, tu vois, qui sont venues de loin pour sauver quoi que ce soit, ou qui sont des travailleurs de ci et ça.
Ils se surestimaient un peu,
je crois vraiment, c'était comme ça, tu vois, mais des jolies, ils ont raconté des jolies histoires, tout ce qu'ils ont vu en couleur, en figure, en fait, c'était impressionnant, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Et à travers de ça, je suis venue encore plus petite et plus gênée parce que chez moi, c'était pas du tout ça. Et je me suis dit, bon, tu vas juste maintenant faire que plus personne va réaliser que tu es dans cette salle et peut-être on va oublier de te demander aussi pour raconter ce que j'ai vu.
Ce que t'as vu, ouais.
Et bien sûr que non, on va pas oublier. Et du coup, j'ai dû raconter que la seule chose que moi j'ai vu dans ma transe, c'était une grande boule, quelque chose de rond, très clair, très lumineux, et de temps en temps ça faisait bloup, et il y a eu une petite bulle qui est sortie de la grande, et qui est partie. Tu peux t'imaginer, en fait, c'est la grande bulle qui a une petite pulsation très clair, et de temps en temps ça faisait boum, et une qui sortait, qui grandissait et qui s'en allait, tu vois. Et après, d'un autre côté, boum, et ça sortait de nouveau. C'était le seul sujet, et en fait, la seule image que j'ai eue de moi. J'étais très gênée.
Parce que
tous les autres, ils ont eu des histoires, et moi,
Claire,
j'ai
très. Que ça. Mais comment tu le schématises, ça? Genre, je suis une bulle qui fait des ploupes.
Mais voilà, tu vois, j'étais gênée. Hein, mais bon, c'était dans un contexte que personne ne juge personne.
Oui.
C'était pas. En fait, on n'a même pas discuté de ça, tu vois. On entendait les autres, l'un les autres, et c'était ça. Et pendant des années, ça fait très longtemps que j'ai fait cette formation, et bien, j'ai jamais oublié cette image. Et plus que j'ai grandi, plus que j'ai vieilli, j'ai trouvé pas seulement la paix avec cette image, je me suis reconnue dans cette image. Que peut-être c'est exactement ça, mon travail supérieur, être juste là pour éclairer et de donner de temps en temps une bulle qui éclaire un côté de quoi que ce soit. Et rien de plus. Et heureuse, aujourd'hui, être juste ça. Au-dessus de tout ce que je fais. Que je sois hypnothérapeute, prof de pilates, femme de Rebozo. Et finalement, tu vois, je suis... C'est ça. À côté que je suis...
Plein de
toutes
choses.
Toutes ces choses, tu vois. Mais ça, c'est la chose importante que... C'est mon remerciement... au monde, à l'univers, au ciel, à Dieu, que je suis là. Ça, c'est une réponse. Oui, je pense, chaque personne porte quelque chose en soi depuis la naissance, depuis toujours. C'est juste à réaliser, un jour ou l'autre.
Ou pas.
Sur l'autre question, un moment de clé pour moi, que tu m'as demandé. Mon premier appel dans ma vie, mon idée d'être et ce que je voulais devenir, c'était danseuse. J'ai une formation de danse classique et c'était pas que j'ai dansé, j'étais la danse. C'est moi la danse.
Oui, je crois qu'on est d'accord.
À l'époque, j'ai commencé à 6 ans, et relativement tard. Mais après, voilà, je peux dire, j'étais bien. Et ma prof, elle a vu que j'étais bien, et elle voulait me faire progresser, et elle voulait absolument que je vais à l'Opéra de Vienne, qui est une école professionnelle pour des danseuses. Et ben, comme j'ai eu 7 ans, j'étais sous les ailes de mes parents et mes parents trouvaient ça complètement idiot de devenir danseuse. C'est pas une profession sûre et certaine que non. Là, j'étais blessée, mais j'ai pas de souvenir que c'était profond. En fait, je n'ai pas de souvenir, c'est plutôt ça. Je peux pas me souvenir comment j'ai réagi, mais en tous les cas, j'ai continué à danser, je faisais des projets, j'étais à Cuba, j'ai appris les danses de Santeria et tout ça à Havana. Je faisais une formation de jazz dance
Et là, tu avais toujours 7 ans ou tu avais grandi?
Non, là, de 7 ans à 16 ans, je faisais le ballet classique. Et après, je me suis fait former dans des autres danses. Et j'ai eu 22 ans que j'ai rencontré une autre prof de danse. Ça, c'était dans le jazz. Et elle, c'était ma deuxième mentor, si tu veux, dans la danse. Et elle a dit, écoute, il faut vraiment que tu danses. Entre-temps, je suis devenue infirmière. Je fais les études infirmières qui durent en Suisse à l'époque. ça date un peu. 3 ans. Okay. Donc, j'étais déjà infirmière diplômée. Et à côté, j'ai toujours dansé. Et cette dame, elle m'a dit, mais écoute, il faut que tu danses. Ça, c'est vraiment ton appel. Et elle m'a vraiment boostée. Elle m'a dit, mais tu vas faire comment ça s'appelle en français? Tu sais, quand tu fais des tests à des grandes écoles de danse pour rentrer.
Des examens?
En fait, c'est comme un examen de rentrée, tu sais.
Oui, je vois. Ouais,
je ne connais pas le mot en français, comment ça s'appelle peut-être. Des auditions.
Oui, auditions.
Des auditions.
Ah oui.
il faut absolument que tu rentres dans cette école qui était à l'époque une des meilleures écoles de danse en Suisse, à Zurich. Je me suis dit, ah bon, j'ai eu 23 ans, tu vois, ça, normalement, tu fais beaucoup plus,
jeune.
Plus jeune. Mais bon, finalement, je me suis dit, bah, écoute, qu'est-ce que je peux perdre? Je vais le faire. Du coup, j'ai fait cette audition et tout ça. J'étais, bien sûr, pas seulement la plus vieille, et j'étais aussi, comment dire, la plus basique, tu vois. J'ai jamais mis beaucoup de choses sur l'apparence, tu vois. Je suis allée jusqu'avec des leggings, avec un t-shirt d'une autre couleur. C'était pas très style, pas du tout. Mais c'était pas important pour moi parce que c'était la danse qui était important. Et ça, c'était juste du schnick-schnack autour, tu vois. Ça m'a... Tu vois, c'était jamais important pour moi. Et du coup, je me retrouvais, bien sûr, dans un salle avec... je sais plus de 100 filles, mais qui étaient tous dans leur tutu, tu vois, dans des trucs en rose, là, tu vois. C'était incroyable, je me suis dit, oups. Oh là là, où je suis tombée, tu vois. Ils ont fait tous des échauffements très professionnels et tout ça, tu vois. Et moi, j'ai mangé mon Mars, tu vois, je suis allée fumer dehors, en fait. Un autre monde, tu vois. Mais bon. Du coup, j'ai fait cette audition qui a duré une journée et... Miracle, miracle, ils m'ont pris.
Oh.
Ouais. J'ai eu ce test. J'aurais pu faire cette formation qui a duré 4 ans dans cette école.
Mais ça aurait annulé tes études, enfin ton diplôme d'infirmière.
Oui, j'aurais pu faire ça qu'en plein temps, tu vois, peut-être à travers quelques heures de travail, mais c'était un temps plein, tu vois, pendant 4 ans. Et bien sûr, ça, il fallait payer ça aussi,
ah, oui.
C'était pas gratuit, tu vois. Et du coup, j'étais de nouveau dans la situation que ben, je ne pouvais pas faire ça. 4 ans temps plein, travailler à côté, me loger et tout ça, me payer tout ça seule, c'était impossible. Alors, j'étais obligée, encore une fois, de demander mes parents. Qui, malheureusement, pour la deuxième fois, ont trouvé « Est-ce que ça va encore dans ta tête ?» Bien sûr que non. Du coup, ça, c'était mon moment de clé. Ça, c'était affreux pour moi.
Parce qu'ils croyaient pas, ils y croyaient pas, alors que toi, tu...
Non, c'était même pas qu'ils croyaient pas. C'était pas dans leurs images de la vie, de leurs valeurs, ce qui est bien ou pas. Et ça, c'était le déclencheur, je pense, vraiment pour ma vie. Pas seulement... je me suis jurée, tu vois, plus jamais... Je vais demander quelqu'un pour un service. Là, je suis devenue la guerrière que peut-être quelques gens peuvent reconnaître en moi, tu vois. Parce que je me suis mis sur ma plus grande phrase dans l'hypnose. On parle beaucoup de la phrase principale, la phrase de couronne de tes valeurs, la plus haute, tu vois. Ce qui est vraiment au plus haut de ta pyramide de conscient et inconscient. Ce qui est vraiment le plus haut valeur de ta vie, tu vois. Et pour moi, c'était un mélange entre liberté et indépendance. Je voulais plus jamais dans ma vie, demander quelqu'un pour quoi que ce soit. Et ça, c'était vraiment le déclencheur pour plein de choses. Pour plein de choses que j'ai fait. Inconsciemment, après. C'était pas toujours présent, ça. Ça, c'est comme quelque chose qu'on peut oublier aussi. Comme un traumatisme qu'on oublie après qu'on a eu ce traumatisme. Mais l'effet reste. Tu vois.
Et tes actes qui en découlent aussi.
Et les actes qui suivent aussi. Ils restent liés à cette promesse, si tu veux, tu vois. Mais par chance, comme on m'a donné cette bulle de lumière, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'était ce mélange qui a fait que finalement j'ai dû me armer avec un savoir et de choses que j'ai choisi à faire qui m'ont permis de cheminer mon chemin à travers des choses qui m'ont fait heureuse. Et, Et c'était aussi exactement comme ça que je... C'était comme je serais dans un tout petit bateau sur une grande fleuve avec de l'eau vert. J'ai toujours eu cette image. Et cette fleuve, c'est ma vie. Et je me laisse guider. Mm. Je ne suis pas la visionnaire. Je n'ai pas des visions. Mm. Je me laisse guider par la vie. Et j'ai un ressenti très sûr quand c'est le moment de dire oui, là, de réagir.
C'est marrant. Ouais.
Ça peut être très brut pour mon entourage parce que je peux mijoter pendant très longtemps des choses en moi. Et quand c'est mûr, quand c'est prêt, quand c'est vrai, quand c'est le moment, je peux prendre des décisions radicales que... et le faire sans regret après. Mais qui peuvent être des fois compliquées aussi pour mon entourage parce que après j'y vais. C'est... Après je chemine.
Mais du coup, c'est le fait d'avoir été un jour contrainte de ne pas pouvoir faire ce que tu voulais où du coup tu as cultivé un peu ce truc-là de ok, ben dans ces cas-là, je vais laisser les choses se faire, mais quand je sens que c'est un truc, c'est moi qui y vais et personne m'empêche. C'est
ouais.
ça ?
Ouais, ouais.
Et c'est à cette période.
Après, c'était. Tu vois, ça, c'est plus des choses qui se sont faites probablement inconsciemment. Oui. Tu vois, je pourrais pas dire ah oui, j'ai pensé ça déjà à 24 ans. Non, pas du tout. Et j'ai aussi, pendant très longtemps, que si, pour des raisons quoi que ce soit qu'on a atteint le sujet de danse, tu vois, très très souvent j'ai commencé à pleurer, tu vois, c'était quand même quelque chose de très grave qui m'arrivait à ce moment, tu, que je pouvais pas suivre cet appel, tu vois, de devenir danseuse. Et pendant très très longtemps ben oui, j'ai eu des larmes dans mes yeux où j'ai pleuré, rien qu'il y a, s'il y a quelqu'un touché à ce sujet, ça m'a impressionné, tu vois. Et même à l'âge de 40 ans encore, tu vois.
Et t'as arrêté de danser après ça ou pas?
J'ai continué à danser encore longtemps, jusqu'à l'âge de peut-être 30 ans.
Ok.
Après, c'était d'autres choses qui se mis dans ma vie. J'ai pas eu de temps. Et j'adore danser encore aujourd'hui. J'aimerais toujours encore reprendre. Un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir assister pendant une semaine à l'Opéra de Paris jusqu'aux entraînements. Juste dans un coin, personne ne me regarde, me corrige quoi que ce soit, mais juste pendant une semaine de m'entraîner, tu sais, avec le ballet classique de l'Opéra de Paris. Complètement fou. Mais bon, ça serait mon rêve encore de pouvoir faire ça. Parce que c'est rigolo aussi à chaque fois quand je parle du ballet classique et tout ça. Je sens, là, maintenant, je suis assise, décontractée sur ce lit-là. Mais normalement, quand je suis debout, mon corps...
Il a envie de danser.
Oui. Mon corps se remet en position...
Mais tu vois, as une stature de danseuse.
De danseuse.
Depuis
tu vois,
que je te connais, tu as toujours été hyper droite, hyper... cette posture hyper droite, hyper digne, hyper... là, tu vois. Je sais
oui,
pas comment dire.
C'est vraiment... des fois, aujourd'hui, maintenant, je dois rire un peu de ça quand je réalise « Ah oui, attention, ça me le refait, là. » L'effet de danseuse.
Et du coup, là-bas, là, t'étais à Berne, t'étais du coup infirmière anesthésiste. Et
alors, du coup...
Ouais.
Alors, la danse, c'était...
Compliqué.
Voilà. C'était, ça, c'est pas fait. Du coup, j'étais infirmière. Et... Ah oui, à côté, j'ai dansé encore, oui, toujours. J'étais infirmière parce que j'aimais soigner, prendre soin. Mm. Ça, c'est quelque chose qui m'accompagne quand même aussi longtemps comme peut-être cette sensation d'être danseuse, prendre soin des êtres. C'était toujours quelque chose aussi comment dire, qui s'installait dans ma vie très tôt. Mm. J'ai aimé être infirmière. J'étais pas autant passionnée comme infirmière comme j'ai dansé. Mm. Il y a eu quand même une différence. Mais prendre soin, ça c'était quelque chose qui m'a nourrie. Mm. En fait, toujours. Et ben, du coup, j'ai continué mon chemin comme infirmière à Berne. À l'université de Berne. Après, j'étais dans une clinique que je faisais la salle de réveil. parce que je voulais continuer de me former tout ça, et ça c'était très bien. Et à ce moment-là, j'ai eu une rencontre de clé aussi, et c'était un homme qui était infirmier anesthésiste, et il m'a carrément embêtée pendant un an et demi, presque tous les jours. Elle m'a toujours dit, bah, écoute Coco, tu dois faire les études infirmière anesthésiste. Ça va être ton gant, comme vous dites. Ça va être ton truc. Tu es infirmière anesthésiste. Tu ne le sais pas encore, mais je te jure, fais ces études, c'est ton truc. Moi, j'ai eu aucune idée de quoi il parle, ni je connaissais vraiment qu'est-ce qu'ils font les infirmières anesthésistes. Tu vois, vraiment aucune idée. Ça a duré et ça a pris les mesures que un jour, il a carrément rempli la demande pour faire le test rentrée, tu sais, aussi à cette école et tout ça. Il fallait aussi faire un test et tout. Et d'abord, à envoyer des papiers, des recommandations des personnes qui disent oui, elle est prête, douée, assez intelligente pour faire ses études, etc. Il a carrément rempli tout ce dossier.
Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire, que tu fasses ça ou pas? Pourquoi?
Eh bien, c'est pour ça. Tu as des moments de clé que tu rencontres des personnes, tu vois, qui tu vas comprendre après.
D'accord.
De nouveau, revenir sur ce sujet que je t'ai raconté au départ, tu sais, le jardin des âmes. Eh bien, qui sait? Peut-être je me suis mis cette position et comme je savais dans le jardin des âmes que je suis tellement têtue que je ne vais pas l'écouter, je me suis positionnée cette situation que vraiment il insiste, tu vois, que je fasse ça. Peut-être. Qu'est-ce qu'on sait? On le sait qu'après. Dans tous les cas, il m'a tellement gonflée que je me suis dit, bon, ok, je vais y aller à ce test. Je le fais. J'ai signé ce dossier. Il l'a envoyé et tout. Du coup, j'ai eu l'appel pour venir me présenter. C'était aussi une journée. Il fallait passer une demi-journée au bloc opératoire, accompagner des infirmières anesthésistes, travailler avec eux et tout ça. Et tout ça, c'était un peu... sous les yeux de tout le monde qui ont fait retour après aux gens qui ont examiné après la candidature. Et puis après, il fallait encore faire des tests écrits, des choses comme ça. Et puis après, il y a eu un interview encore. Alors, t'imagines, ce jour-là, c'était la première fois dans ma vie que je suis rentrée dans un bloc opératoire, que pour la première fois dans ma vie, j'ai vu le travail d'un infirmier ou une infirmière anesthésiste. J'ai eu aucune idée avant. Aucune. Et que voilà. Et j'étais là, comme j'aurais été toujours là, dans ce bloc opératoire. Et j'ai proposé mon aide de faire, en fait, ok. Et après, il y a eu encore cette interview. Et comme je suis quelqu'un qui est très vite, très enthousiaste, tu vois, je me suis dit à moi-même, voilà, tu vas être calme, tu vas juste répondre aux questions, tu vas pas parler toi-même, juste cool. J'ai eu cette interview et qu'est-ce qui s'est passé ?